Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Notre auteur continue sa marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les rencontres sur le chemin se font plus nombreuses. Nous sommes dans les Asturies. Au sommet du chemin. On découvre le long du chemin quelques femmes providentielles. Elles se consacrent aux pèlerins et mettent à leur service toutes les qualités dont la nature les a pourvues. Dans la ville asturienne de Villa Viciosa, j'ai passé la nuit dans un bel hôtel, décoré avec la simplicité chaleureuse d'une maison de famille. La propriétaire aurait pu en réserver la fréquentation à une clientèle touristique haut de gamme. Mais elle aime les pèlerins. Je ne sais à la suite de quel vœu elle a décidé de se consacrer à leur bien-être. Le long du chemin, plusieurs kilomètres avant la ville, de petits papillons sur les arbres leur indiquent qu'ils seront les bienvenus dans son établissement. Elle connaît la modestie de leurs moyens et doit avoir vaguement conscience aussi de leur pingrerie. Elle a adapté ses prix à leur bourse. Pour autant, elle s'en voudrait de leur offrir moins de confort que s'ils payaient un tarif plein. Le soir venu, les jolies chambres aux murs tapissés de percales se remplissent de toute la misère du chemin. Je fis ainsi sécher ma tente entre un tableau 19e représentant un paysage et un ravissant secrétaire en marqueterie. J'alignais des chaussettes sur la tête de lit en bois sculpté et triais ma batterie de cuisine sur un guéridon. Je suis bien certain que mes compères pèlerins firent de même dans les chambres voisines. Au petit déjeuner, la patronne du lieu prenait visiblement un grand plaisir à boire son café au milieu des jaquets. En même temps qu'elle préparait sa fille pour l'école, elle discutait avec les marcheurs, s'enquérait de leur sommeil, de leur repos et les faisait parler de Compostelle où elle n'était jamais allée. C'est avec remords mais en obéissant à leurs instincts les plus irrépressibles qu'ils fauchaient tout le pain disposé sur les tables pour constituer des réserves dans leur sac à dos. Je suis bien sûre que, à Saint-Jacques, nombreux ont prié pour cette femme ou, à tout le moins, ont eu une pensée pour elle. J'en rencontrai une autre, d'un genre bien différent, dans le petit village de Campiello, quelques kilomètres après Tineo. Le guide signalait en deux lignes l'existence dans ce village d'une épicerie appelée Casa Erminia. Il n'en disait pas plus. En arrivant, j'eus la surprise de découvrir une halte organisée spécialement à l'attention des pèlerins. Cette vocation n'était pas évidente à première vue. Il y avait bien un fort coquille Saint-Jacques sur la façade de la maison, mais cette référence est souvent destinée aux touristes plus qu'aux vrais pèlerins. En entrant dans l'établissement, je trouvais le « décrochez-moi ça » habituel des épiceries de campagne. À droite, le bar, derrière lequel un patron renfrogné essuyait des verres. Au fond, un étal réfrigérant qui offrait diverses catégories de viandes et de fromages, dont on pressentait qu'ils portaient tous des noms exotiques, inconnus 20 km plus loin. Enfin, sur les murs et jusqu'au plafond, un capharnaüm de produits variés, duquel émergeaient des paquets criards de lessive, des jouets en plastique couverts de poussière, des bouteilles de soda dont le contenu virait aux louches. Il faisait chaud dehors, en cette fin de matinée. Quand je pénétrais dans l'épicerie, le silence du lieu, le regard mauvais du patron, l'absence dans le village de toute âme qui vive me firent d'abord craindre d'avoir franchi le seuil de quelque funeste auberge rouge, de celle qui, dans la légende, accueille le voyageur pour lui trancher la gorge et le détrousser. Je m'assis craintivement au bar et, pendant que le patron allait me chercher un Coca-Cola, je regardais avec méfiance les saucissons qui pendaient au-dessus du comptoir. Ne serait-ce pas de la viande de pèlerin ? Ces sombres pensées se dissipèrent avec l'arrivée d'une femme, petite et forte. Vêtue d'une robe noire que couvrait un tablier de cuisine, la nouvelle venue émergeait de ses fourneaux. Par une porte ouverte, on pouvait sentir un délicieux fumet qui passait sous le couvercle d'énormes casseroles en fer blanc. C'est peu de dire que cette femme dégageait de l'autorité. Dès son entrée, le patron s'évapora, aspiré par le mur gris dont il avait soudain pris la couleur. Elle planta sur moi deux yeux ibériques qu'aucun nervi franquiste n'aurait pu faire baisser. « Vous voulez déjeuner ?» m'assena-t-elle. Il n'y avait dans sa phrase, pourtant dite en espagnol, aucun point d'interrogation, ni devant, ni derrière. Sans attendre une quelconque réaction de ma part, elle enchaîna. « Ce n'est pas encore prêt, asseyez-vous, là. » Bien attendri par ces semaines de chemin, je me plaçais docilement à l'endroit qu'elle m'indiquait en pointant l'index. Elle retourna dans sa cuisine et j'attendis. Un peu plus tard, un nouveau pèlerin fit son apparition. C'était un homme de haute taille, le nez refait et les cheveux décolorés. Sa musculature était de celle qui procède d'une longue fréquentation des salles de sport urbaines et il avait pris soin de la mettre en valeur au moyen d'un débardeur noir moulant et d'un collant mi-cuisse très ajusté. Il avait tout à fait l'air de descendre d'un char de la Gay Pride. Les bâtons de marche et le sac à dos, pour incongru qu'ils parussent, témoignaient qu'il s'agissait bien d'un pèlerin, ce que confirmait sa présence dans ce lieu. La femme ressortit de sa cuisine, lui intima l'ordre de s'asseoir en face de moi et annonça « C'est bientôt prêt !» Nous liâmes conversation, mais à voix basse, pour ne pas déranger. Après avoir essayé diverses langues, nous découvrîmes que nous en avions une en commun. Il était hollandais et avait appris le français en Belgique. Toujours encombré de préjugés, je pensais que ce devait être son premier chemin et qu'il n'avait pas dû partir de très loin eu égard à son état d'extrême propreté. Il me détrompa. C'était la cinquième fois qu'il se rendait à Compostelle et il s'était mis en route à Bruxelles. Il avait, à vrai dire, parcouru tous les itinéraires possibles. Il parlait du pèlerinage comme d'une plaisanterie qui aurait mal tourné et surtout assez duré. Il se jurait bien que ce chemin-ci serait le dernier. Cependant, à la manière qu'il l'avait de l'affirmer, on sentait qu'il se défiait de lui-même et que, à chaque voyage, il avait probablement prêté en vain le même serment. L'aubergiste fit irruption en tenant bien haut des assiettes fumantes qu'elle déposa devant nous. Le menu n'était pas davantage laissé à notre discrétion que les places. Il n'était pas question de s'en plaindre et d'ailleurs, nous n'en avions aucune envie. Tout était délicieux. D'autres pèlerins arrivèrent en groupe. Ils nous saluèrent et nous fixèrent longuement. Ils n'avaient pas l'air choqués par le couple qu'en apparence nous formions, le Batave et moi, mais seulement intrigués par le fait que l'un de nous fût si propre et l'autre si sale. Le déjeuner terminé, la femme passa dans les rangs pour se faire acclamer. Nous lui rendîmes un hommage mérité. Elle s'attarda auprès de nous et alla jusqu'à nous ouvrir son cœur. Elle se dévouait entièrement, disait-elle, pour les pèlerins. Héritière de l'épicerie, elle l'avait dédiée à cette cause. Nous comprîmes vite que ce n'était pas pour des raisons spirituelles. Le chemin était pour elle un créneau commercial et elle mettait toute son énergie à l'occuper. Elle avait fait le compte de ses avantages. Campiello était situé sur le chemin et tous les guides mentionnaient désormais son épicerie. Hélas, elle avait aussi un handicap qu'elle entendait bien surmonter. Le village était au milieu d'une étape. Les pèlerins partaient de Tineo, où ils passaient la nuit, et se rendaient à Polo de Allende pour y dormir. Elle en était donc réduite à ne servir que des déjeuners. L'activité était certes rentable, nous devions nous en convaincre en recevant l'addition, mais elle restait insuffisante. La vigoureuse aubergiste avait l'ambition de donner à son village le statut d'une halte à part entière et d'y faire dormir les pèlerins. À cette fin, elle avait aménagé un ancien hangar agricole en auberge. Elle nous fit les honneurs de ses installations après le déjeuner. Sous le soleil impitoyable du début de l'après-midi, le Hollandais et moi parcourûmes les quelques centaines de mètres qui conduisaient au refuge. Nous étions en nage. La maîtresse du lieu, toute de noir vêtue, ouvrait la marche. Pas une goutte de sueur ne perlait à son front. C'était à l'évidence une de ces machines humaines à haut rendement qui économisent la moindre goutte d'eau, rentabilisent les aliments jusqu'à la dernière calorie et transforment tout en énergie et finalement en bel et bon argent. Le dortoir était neuf et propre. La femme nous vanta la literie en donnant le prix des matelas. Restait que, comme dans toutes les auberges privées, les couchages étaient redoutablement proches les uns des autres. Ni l'insistance de la patronne, ni la propreté du lieu ne furent suffisantes pour me faire changer d'avis. J'allais continuer ma route. D'ailleurs, il était encore très tôt et j'étais loin d'avoir mon comptant pour la journée.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions de Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.